Bien, bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être venu. Je me faisais tout à l'heure la réflexion que M. Arban Beïndoun est là en tant que professeur invité et qu'il est donc probablement le premier Libanais à venir avec ce rang-là au Collège de France depuis Abraham et Kelensis au milieu du XVIIe siècle. Ça prouve en tout cas notre capacité à renouer avec la chaîne des temps, selon l'expression consacrée. L'un des grands avantages de travailler dans le domaine qui est le mien, c'est qu'on peut réussir à établir des amitiés durables et fructueuses. Et c'est en particulier le cas pour moi avec M. Arman Beïndoun, que je connais au moins depuis un quart de siècle, et avec qui je m'entretiens tout à fait régulièrement. M. Beïndoun est né au Liban Sud, à Beit Jebel, ce qui m'a plus ou moins fait comprendre devait être quelque part comme le centre du monde. Il a passé son enfance dans ce gros bourg du Liban Sud. Et puis, il a fait ses études primaires, puis secondaires, chez les frères, et puis ensuite chez les Makassides, donc chez les musulmans sunnites à Saïda, puis à l'université libanaise. Son premier métier, si j'ose dire, a été d'être professeur de philosophie, mais en même temps, il a ouvert un spectre tout à fait large de sujets qui couvrent en gros l'analyse critique des discours libanais, au pluriel pour discours, aussi bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans ce pays, mais aussi parce qu'il parle sur beaucoup de sujets. Ainsi, la thèse de M. Beïndoun a porté sur les discours historiques libanais, mais il a aussi fait différentes approches, en particulier de la langue arabe. Il a collaboré à la confection d'un dictionnaire arabe. Il a aussi beaucoup travaillé sur le Liban contemporain, ce qui lui a valu, dans les années 1980, d'être élu professeur de sociologie à l'université libanaise, fonction qu'il vient juste de quitter, atteint par ses limites imbéciles, qui sont les limites d'âge, mais il faut laisser quand même la place aux jeunes un jour. Il a été un peu un touche-à-tout à différents sujets, puisqu'il est philosophe, sociologue, et je lui reconnais aussi une vaste connaissance du champ historique. Il est en train de terminer une biographie de Riyad el-Soul, personnage central de l'histoire libanaise de la première moitié du XXe siècle. Mon cher Ahmad, il y a un peu plus de 2 ans quand nous discutions de ta venue au collège, nous parlions de la politique libanaise. Nous étions à ce moment-là à une époque plutôt d'euphorie, du printemps des cèdres, et tu m'as dit le plus grave, la véritable crise, elle se fera dans 2 ans autour de l'élection présidentielle libanaise. Et malheureusement, comme d'habitude, tu as eu raison. Et cette petite anecdote, simplement pour montrer la justesse de jugement de notre invité sur la situation politique libanaise. Et donc je te cède tout de suite la parole pour la première conférence que tu as intitulée « Du pacte de 1943 à l'accord de Taïf, les résistances à la déconfessionnalisation ». Je te cède la parole, Ahmad.
Merci Henri, je tiens à te remercier de tout cœur pour cette occasion que tu m'as offerte de m'adresser dans l'enceinte de cette prestigieuse institution au public ici présent, au public du Collège de France. Cette invitation marque vraiment une date dans ma carrière d'enseignant et de chercheur. Ma carrière d'enseignant, comme tu l'as rappelé, vient de se terminer. Et j'espère que ma présence ici constituera encore une source supplémentaire d'énergie pour que je puisse continuer ma carrière de chercheur. Je remercie aussi les professeurs et l'administration du Collège de France qui ont fait tout ce qui est nécessaire afin que mon séjour scientifique au Collège se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je vais faire ici 4 conférences, toutes sur la crise en cours du système politique libanais. La première est donc consacrée aux résistances à la déconfessionnalisation. La déconfessionnalisation est en fait une sorte de reproche que le système politique libanais se fait, qu'il a toujours accompagné. Elle ne fait pas partie de la revendication d'une minorité marginale ou de quelques groupuscules d'opposition. La déconfessionnalisation est inscrite dans les textes fondateurs de notre République. Elle l'a été dès le départ et elle n'a jamais pu connaître un début d'exécution. Elle a passé d'un texte fondateur à l'autre, de la Constitution de 1926 au Pacte national de 1943 et puis ensuite à l'accord de Taif de 1989. Je vais essayer d'en voir le mode de présence et la signification de cette présence dans ces 3 textes qui, comme je l'ai dit, sont en quelque sorte les chartes successives de la République libanaise et qui toutes continuent, quoique de façon diverse, à être présentes dans les références quand il s'agit de discourir sur le système politique libanais. Eh bien, mesdames et messieurs, l'équivalent arabe du mot « citoyen » n'apparaît dans le texte de la Constitution libanaise qu'avec la réforme constitutionnelle entreprise en 1990, conformément à l'accord de Taif. Le paragraphe C du nouveau préambule de la Constitution stipule en effet l'égalité en droit et en devoir de tous les citoyens sans discrimination ni préférence. C'est d'ailleurs l'unique occurrence de ce terme, au pluriel ou au singulier, dans la Constitution entière. Il en va de même du mot « watan », « patrie », qui apparaît au paragraphe A du même préambule. Le français étant la langue originale de notre Constitution de 1926, il est intéressant de noter que les deux termes arabes cités, « watan » et « muwatan », dérivent de la même racine, ce qui n'est pas le cas de leurs équivalents français, « patrie » et « citoyen ». Dans le texte de 26, nous tombons sur le Liban et les Libanais, qui semblent faire l'affaire, mais occultent passablement les contenus juridico-philosophiques de la notion de citoyenneté. Il est vrai que dans l'article 21, dont l'objet est le droit de vote, le couple Watani-Lubnani fait son apparition. Il est censé rendre le terme de citoyen libanais du texte original. Or, précisément, cette traduction arabe fait problème. Wataniyoun évoquant dans le vocabulaire de l'époque plutôt les nationaux ou même les indigènes que les citoyens. Les nationaux s'opposent ici aux étrangers, peut-être même aux Français en particulier, ces derniers étant en force dans les différents appareils du mandat. Est-ce à dire que la Constitution d'avant 1990 ignorait le souci de fonder une citoyenneté libanaise au sens plein, garantissant aux Libanais les droits qui s'y rattachent et leur assignant les obligations qui en découlent? En dépit de la lacune que nous venons de signaler, le souci en question paraît fortement présent dans la Constitution. Il en résume même l'esprit. Dans le chapitre 2, consacré aux Libanais, leurs droits et leurs devoirs, l'égalité en droits et en devoirs des Libanais, les libertés fondamentales et les droits et immunités normalement garantis aux citoyens par une constitution démocratique sont pleinement affirmés. Au sujet des pouvoirs, le préambule énonce explicitement ce qui, dans le corps du texte, était déjà le principe fondateur de leur autorité, de leur mode de renouvellement et de leur rapport entre eux, à savoir que le peuple est la source des pouvoirs et le sujet de la souveraineté, le Liban étant une république démocratique parlementaire. La Constitution n'a soumis le droit de vote à aucune condition, hors celle relative à l'âge. Elle a fait du mérite et de la compétence les seules conditions requises pour l'assomption de fonctions publiques. Tel est l'esprit dominant l'ancien texte constitutionnel et son nouveau préambule. La garantie des droits des citoyens paraît en être la préoccupation principale. Les pouvoirs publics et les obligations des citoyens ont pour finalité, d'une part, la protection de la communauté des citoyens, autrement dit de la nation, et d'autre part, la préservation des droits de ces derniers et des formations diverses qui leur servent de cadre d'association ou de solidarité. Ce n'est donc pas dans la Constitution, du moins si l'on s'en tient à son esprit général, que réside le foyer de résistance à l'actualisation de la citoyenneté dans le cadre du système politico-juridique de l'État libanais. Par actualisation de la citoyenneté, nous voulons dire l'institution d'une individualité publique. Cette individualité naît d'un travail conjugué de l'histoire de la société et de l'application du droit que nous baptisons « travail d'abstraction politique ». En effet, ce travail dépouille l'individu dans la mesure où ce dernier appartient à la sphère publique de toutes les particularités concrètes et appartenances diverses susceptibles d'introduire l'inégalité à ce niveau entre les membres de la communauté nationale. Force nous est donc de chercher d'abord dans le texte même de la Constitution et ensuite dans d'autres lois libanaises, ce qui contredit la tendance constitutionnelle dominante à faire triompher la citoyenneté. Ce faisant, nous tombons sur les textes qui instituent le caractère communautariste du système politique en place depuis la promulgation de la Constitution et même antérieurement à celle-ci, et sur d'autres textes aussi, soumettant à un régime communautariste des aspects majeurs de la vie civile des Libanais. Les dispositions constitutionnelles qui tombent sous le coup de cette qualification paraissent faire nettement exception par rapport à l'esprit général de la Constitution que nous venons de dégager. Ces dispositions se répartissent en deux catégories. Elles sont au départ soit provisoires, soit transitoires. Leur propos dans les deux cas est d'aménager la sortie d'une situation considérée comme indésirable, de réserver à cette fin tout le temps et tous les efforts qu'il faudrait. La validité de ces dispositions fut indéfiniment prorogée pour des raisons dont la Constitution elle-même, dans la mesure où l'on veut bien tenir compte de l'intention du législateur, se désolidariserait volontiers. D'autres dispositions constituent des garanties accordées aux communautés confessionnelles. Il s'y agit en effet d'institutions communautaires. Toutefois, ces dispositions ne reconnaissent nullement aux autorités communautaires le monopole des affaires dont elles traitent. Elles ne livrent pas les citoyens pieds et poings liés à ces autorités. Il n'empêche que les garanties qu'elles représentent ont été progressivement transformées en mainmise exclusive des appareils communautaires dans le domaine concerné. Dans un cas, l'État a abdiqué de fait son droit de se doter d'une législation non communautaire parallèlement à celle qu'il avait concédée aux communautés. Dans un autre cas, il a bien mis sur pied des institutions parallèles, mais les a laissées noyautées de plus d'un côté par les centres d'influence communautaires. Encore une fois, la Constitution n'est pas à blâmer pour cette conduite démissionnaire de l'État. Il serait plus pertinent d'en chercher les raisons dans certains aspects de l'histoire de la société libanaise ou de remonter plus loin encore vers des périodes antérieures à la naissance de l'État libanais et à l'entrée en vigueur de sa Constitution. Pour plus de clarté, il convient de délimiter les champs respectifs des deux catégories de dispositions constitutionnelles que nous venons de citer. La catégorie de dispositions provisoires, effectivement éternisées, comprend celle de l'ancien article 95 stipulant une représentation équitable des communautés dans les fonctions publiques et dans la formation des gouvernements. Il y est dit que cette règle vaudra à titre provisoire et par esprit de justice et de concordance. L'article est demeuré en vigueur de 1926 à 1990 où, en conformité avec l'accord de Taif, il a été remplacé par un nouvel article qui dicte l'abolition du communautarisme politique et arrête les mesures à prendre en vue d'atteindre ce but. Cet article est demeuré lettre morte depuis. Plus encore, la période de transition y était, à la différence de l'ancien texte, expressément liée à une condition dont la réalisation devait lancer obligatoirement les mesures prescrites. La dite condition réalisée, il n'en fut rien. Cette condition n'était autre que l'élection d'une chambre de députés sur une base de parité islamo-chrétienne. Ce fut chose faite en 92 et trois fois répétée depuis. Le nouvel article 95 prévoit en effet une période de transition pendant laquelle le plan par étapes aboutissant à l'abolition du communautarisme politique devra être appliqué. En fait, cet article réduit au statut de disposition provisoire l'ensemble des règles qui permettent encore de qualifier de communautariste le régime politique libanais. On doit sans doute excepter de ce cas l'institution d'un Sénat prévu par les amendements de 90, les sièges de sénateurs devant être répartis à égalité entre les chrétiens et les musulmans et proportionnellement entre les communautés rattachées à chacune des deux religions. Pendant la période transitoire, la Chambre des députés sera formée d'un nombre égal de chrétiens et de musulmans, les sièges en étant également répartis selon la même règle de proportionnalité entre les communautés. Restera observée enfin, pendant cette période de transition, la règle d'équité dans la répartition confessionnelle des portefeuilles ministériels, les postes de première catégorie et assimilés de la fonction publique devant seuls être soumises à une répartition obéissant à la même règle communautaire. En revanche, l'application du plan par étapes que devra proposer l'organisme national chargé de l'abolition du communautarisme aboutira, conformément aux nouvelles dispositions constitutionnelles, à libérer de toute contrainte communautaire l'élection de la Chambre des députés, la formation du gouvernement et l'éligibilité pour les fonctions publiques. Les prérogatives du Sénat se limiteront aux questions dites décisives énumérées dans la Constitution. Aussi, dire que l'accord de Taïf a affermi le communautarisme politique en apportant une consécration constitutionnelle au caractère communautaire de la représentation parlementaire, c'est entériner une accusation répandue mais dépourvue de tout fondement. Qu'il s'agisse du gouvernement d'union nationale qui devait, en vertu des amendements constitutionnels de 90, procéder au renflouement de la Chambre des députés, alors en exercice depuis près de deux décennies, ou encore de l'institution de la parité islamo-chrétienne dans les chambres et aussi dans le gouvernement de la période de transition, ou enfin de la redistribution paritaire des postes dirigeants dans la fonction publique, l'accord de Taïf et la Constitution après lui firent le sage choix d'élargir autant que possible la représentation communautaire et d'y observer une règle de stricte équité avant d'enclencher le processus devant aboutir à l'abolition du communautarisme politique. Déjà, cette sagesse était en fait préconisée chaque fois qu'à partir de l'indépendance, la déconfessionnalisation de l'État était évoquée. Ce que l'accord de Taïf est devenu dans le cours de son application ne justifie pas l'accusation de communautarisme dont il est l'objet. Car, dès le démarrage de l'opération, la conjoncture régionale qui, après en avoir rendu possible la conclusion, devait accompagner la mise en application de cet accord et les garanties qui devaient en assurer la bonne marche, s'était déjà sévèrement dégradée. L'accusation de réduire encore l'espace alloué à la citoyenneté ne vaudrait contre la Constitution d'après Taïf que jointe à l'hypothèse tout aussi fausse que les mesures transitoires prévues par l'accord étaient dès l'abord vouées à la vie éternelle. Rien ne prouve en fait qu'il s'agissait d'autre chose que de précautions destinées à assurer à l'État et au pays le parcours en douceur de la distance entre deux âges. Telle est la situation du communautarisme politique dans la Constitution. il est provisoirement en vigueur d'après l'ancien article 95. La réforme de 90 le confine dans une phase de transition. Le nouvel article 95, ajouté au paragraphe H du préambule et aux articles 22 et 23 relatifs à la déconfessionnalisation de la représentation parlementaire, décrète la nécessité de son abolition. Il nous reste à examiner le communautarisme civil. Le communautarisme civil, donc, c'est-à-dire les prérogatives concédées aux autorités communautaires dans les deux domaines du statut personnel et de l'enseignement. Ces prérogatives sont définies par l'article 9 pour le premier domaine et par l'article 10 pour le second. À ces deux articles, anciens tous les deux, s'ajoute l'article 19, nouveau, qui accorde aux chefs des communautés le droit de saisir le Conseil constitutionnel de doléances relatives exclusivement aux questions de statut personnel, à la liberté de croyance, à la liberté des cultes et enfin à celle de l'enseignement religieux. Il ne fait pas de doute que l'article 9, loin de faire de la législation sur le statut personnel une exclusivité communautaire, laisse la porte ouverte pour une loi laïque qui, sans porter atteinte aux lois confessionnelles, tiendrait compte de la volonté des citoyens ou d'une partie d'entre eux de voir leur statut personnel régi par une législation basé sur leur statut commun de citoyen. Et ceci sans préjudice pour leur appartenance, qu'ils se réservent ainsi la liberté de confirmer ou de nier à une communauté confessionnelle. Cette volonté est légitimée en effet par ce même article 9 qui, en ouverture, déclare absolue la liberté de croyance. L'article 10, lui, garantit aux communautés le droit de se doter d'établissements d'enseignement propres. Il soumet ce droit, cependant, à la condition de conformer le fonctionnement de ces établissements aux prescriptions générales promulguées par l'État au sujet de l'enseignement public. Plus encore, l'article s'ouvre sur la déclaration de la liberté de l'enseignement, ne confinant point ce dernier dans les cadres communautaires. L'existence même d'établissements publics d'enseignement et d'établissements privés non communautaires en constitue d'ailleurs la preuve concrète. Le droit accordé à partir de 1990 aux chefs des communautés de saisir le Conseil constitutionnel de requête relative aux droits concédés par ces deux articles aux communautés ne modifie en rien les limites assignées par les deux articles aux dits droits. D'abord, le Conseil reste pleinement libre de se fier pour toute décision qu'il est appelé à prendre à son interprétation de la Constitution. En deuxième lieu, nous sommes là devant une désignation exclusive des sujets juridiquement en charge de droits et d'institutions communautaires reconnues. Cette exclusivité veut éviter la confusion que ne manquerait pas de cultiver la multiplication dans ce domaine d'autorités autoproclamées et au surplus en contradiction les unes avec les autres. En troisième lieu, nous sommes devant une délimitation indirecte du champ où les chefs de communauté peuvent se prévaloir d'une autorité privilégiée par rapport au commun des citoyens. Enfin, nous sommes devant une confirmation de la préséance du droit positif, ici représenté par la Constitution, sur les lois confessionnelles. Soulignons ici que la nécessité d'une loi laïque unique sur le statut personnel ne procède pas seulement du droit de choisir que cette loi procurerait aux citoyens. En effet, au mépris de la liberté de croyance garantie par la Constitution, ceux-ci sont inclus d'office, à ce titre aussi, dans l'une ou l'autre des communautés confessionnelles reconnues. La nécessité d'une loi laïque procède également de diverses implications du principe d'égalité des citoyens. L'inégalité est surtout représentée dans les lois confessionnelles en vigueur par l'infériorité juridique à laquelle ces lois réduisent les femmes. En dépit du fait qu'il s'agit de législations très diverses quant à leur gestion de la capacité juridique, du mariage et des droits des conjoints, de la parenté et de la filiation, du divorce, de la garde des enfants, des pensions, de la succession, etc., elles restent toutes d'inspiration patriarcale et font fi de l'égalité des sexes sous des aspects variés. En plus, les lois confessionnelles créent des situations hétérogènes relativement, par exemple, à la validité du mariage, à la possibilité de sa dissolution, au droit des filles à l'héritage en l'absence d'enfants mâles, etc. Ces divergences poussent certains à changer de confession ou de religion en vue d'obtenir une solution à leur convenance d'un problème de cet ordre. Bien évidemment, ce pis aller avilit du même coup la foi et la loi. L'intéressé aussi. Désireux de se ménager une issue d'une situation qu'il trouve intolérable ou encore d'échapper à certaines dispositions de la loi confessionnelle, d'autres choisissent de contracter un mariage civil à l'étranger. Parmi ceux-ci, on compte des couples qui ne reconnaissent pas dans la législation confessionnelle, considérée en vrac, et non pas nécessairement dans le détail de ces dispositions, un cadre juridique accordé avec leur conception de la relation conjugale et de ses prolongements. Les tribunaux civils libanais entérinent ces mariages et s'appuient pour le traitement des questions en découlant sur la loi du pays où le mariage a été contracté. Toutefois, cette solution, dont les adeptes se comptent déjà par milliers, ne manque pas de créer à terme, pour certains ou pour leurs enfants, des problèmes douloureux, relatifs en particulier à l'interdiction d'hériter d'une personne de religion différente. Sans parler du fait qu'acculer des citoyens libres à l'adoption d'une loi étrangère n'est pas la conduite indiquée pour un État jaloux de sa dignité et de celle de ses citoyens. Un autre trait du même tableau nous est livré par le fait que certaines communautés musulmanes se sont abstenues jusqu'à ce jour de déposer un projet de loi consignant avec la précision requise les dispositions confessionnelles relative au statut personnel est destinée à être adoptée en Chambre des députés. Les tribunaux confessionnels shari de ces communautés continuent donc à tabler sur ce qu'on sait, ma huwa ma'loum, des prescriptions de la loi religieuse concernant chaque sujet. Or, la loi religieuse tolère la multiplicité des opinions. Les sentences dépendront donc, dans nombre de cas, de l'interprétation à laquelle le juge veut bien se rallier, ce qui ne manque pas de grossir la part de l'arbitraire et de faire varier le jugement rendu d'un cas à son pareil. Le principe de l'égalité devant la justice ne s'en trouve pas conforté. Enfin, les parties d'un litige encourent des frais de justice très variables au gré des appartenances communautaires. De ce point de vue non plus, les citoyens ne sont pas à égalité. La Constitution, je le répète, n'est pas à blâmer pour cette citoyenneté rabougrie qui est dans les deux sphères, civile et politique, le lot des Libanais. Ceux-ci sont éculés dans ces deux domaines à des embrigadements primaires en communauté dont le mode de gestion entrave le développement d'une citoyenneté susceptible de les primer. Il serait plus juste d'en blâmer un arsenal d'autres lois, et d'abord la loi électorale et les lois sur le statut personnel. Des traditions et demeures politiques, des faits accomplis de tout ordre, doivent être également montrés du doigt. Cet échafaudage est couronné par un mépris notoire de la Constitution, pouvant aller jusqu'à en mettre au rancard des pans entiers, sans que cet état d'apaisanteur constitutionnel, qui bien entendu affecte l'ensemble du système juridico-politique, remue effectivement les esprits. Le nouvel article 95, autrement dit l'obligation de franchir le pas de la déconfessionnalisation, n'est pas seul à être ignoré. La loi optionnelle sur le mariage civil n'est pas seul à être bloqué. On n'en a pas assez de voir le communautarisme s'emparer de l'enseignement public et pratiquement de l'enseignement tout entier, au lieu que l'inverse, qui pourtant a paru pendant un moment marqué des points, se produise. Il y a plus en vérité. Le Conseil constitutionnel, dont la tâche est précisément de statuer sur la constitutionnalité des lois, peut rester des années durant dissolu ou en hibernation. La Cour suprême, chargée de juger les présidents et les ministres, n'est pas constituée. Des institutions, des initiatives, des processus d'une importance cruciale pour le bon fonctionnement de l'État sont paralysés. Les gestes de protestation restent faibles ou confinés dans les marges. En revanche, un formidable remue-ménage s'effectue autour de la formule intercommunautaire du pouvoir dès qu'elle semble contestée. Dans le pays et dans des ailleurs proches et lointains, des chasses gardées, des intérêts, des exploitations se sentent en effet menacées. Parallèlement à la Constitution, ou en complémentarité avec elle, le pacte national est régulièrement évoqué dès qu'il s'agit de rendre compte de l'embrigadement des citoyens libanais dans leurs communautés confessionnelles respectives. On rendrait compte du même coup de la sous-représentation qui reste le lot dans notre espace public des attitudes et comportements réputés caractéristiques de l'esprit citoyen. Tout au long des trois décennies qui vont de l'indépendance à la guerre de 75-90, le contenu effectif du pacte national, les types de conduite politique qui devaient en découler et la mesure où ces conduites étaient réellement performées sont tous restés enveloppés de doutes lancinants. Les péripéties de la guerre et depuis la fin de celle-ci, l'accord de Taïf, n'ont fait qu'ajouter à l'épaisseur de ce nuage d'ambiguïté et d'incertitude. Soulignons pour en donner un avant-goût qu'une paresse unanime de notre mémoire politique permettait de faire remonter ce pacte à l'année 43. Or, ce terme de pacte national n'obtient droit de cité dans le jargon de notre classe politique que près de 4 ans après l'indépendance. La reconnaissance du pacte en tant que tel, pourrait-on dire, est bien ultérieure au conciliabule informel qui lui avait donné naissance. Aussitôt devenu objet d'analyse, le contenu de ce pacte se trouve être cantonné dans les deux négations mises en exergue par un fameux article de Georges Nakache intitulé « Deux négations ne font pas une nation ». Les musulmans se seraient détournés de l'unité syrienne ou arabe et les chrétiens de la protection occidentale. Ces deux négations sont d'habitude contrebalancées par deux affirmations. Celle de la volonté de coopération avec les pays arabes et celle du maintien de l'ouverture à ce qui est assimilable et utile, selon les termes de la déclaration ministérielle d'octobre 1943, dans la civilisation occidentale. Ces deux engagements devront orienter les relations du Liban avec les États arabes et occidentaux et plus généralement l'ensemble de sa politique étrangère, y compris son comportement dans les organisations internationales. La préservation de l'indépendance devait rester dans ce domaine le souci majeur de l'État. Néanmoins, une autre interprétation du pacte a réussi à s'imposer progressivement, faisant assumer à ce dernier la responsabilité de la formule de partage intercommunautaire du pouvoir et l'érigeant donc en garantie des droits et quotes-parts dont chaque communauté se prévalait. Aussi, la coutume s'installait de dénommer le compromis de 1943 « pacte de coexistence intercommunautaire » ou, plus tard, « pacte de vie en commun ». Paradoxalement, cette réinterprétation ne déchargea nullement la déclaration ministérielle du gouvernement de l'indépendance de sa fonction de corpus privilégié des énoncés du pacte. On retenait de la déclaration ce qui ne contredisait pas cette refonte sémantique du pacte, on feignait d'ignorer le paragraphe où l'auteur du texte érige en objectif national, dont il appelle la réalisation de ses vœux, l'abolition du communautarisme. On passait cavalièrement l'éponge aussi sur le fait que le même Riyad Salah a continué sans succès au cours des années suivantes à manœuvrer en vue d'ouvrir une brèche dans le mur du communautarisme, réitérant en de nombreuses occasions son désir de voir venir ce qu'il qualifiait de jour béni d'éveil national. En vérité, le pacte, par-delà le flou qui enveloppe sa gestation, ne paraît avoir de communautaire le jour de sa naissance que ses parties contractantes. Plus exactement, ces deux parties contractantes, puisqu'il faut bien s'en tenir à la dualité islamo-chrétienne admise à l'époque sans autre forme de procès. Ce sont les deux communautés au nom desquelles ce pacte a été scellé qui lui ont, pour ainsi dire, inoculé le communautarisme. Le partage intercommunautaire du pouvoir, lui, avec son train de complications et de crises, ne doit rien à la teneur du pacte. Il est régi par ce qu'on appelle la formule, de facture bien antérieure au pacte de 1943 et aussi à la constitution de 1926. Cette formule est beaucoup mieux enracinée dans les mœurs politiques et autres que les dispositions des deux autres corpus réputés fondateurs du système politique libanais. Et c'est son efficace, bien supérieure à la force du pacte et à celle de la Constitution, qui muselait ou détournait au gré des circonstances l'une et l'autre. Rendu de plus en plus sourd aux sommations des codes régissant leur vie en commun, les Libanais devenaient d'autant plus sensibles au sinistre appel du gouffre que périodiquement ils voyaient s'ouvrir soudain à leurs pieds. Bien plus, depuis la fin de la guerre et l'adoption de l'accord de Taif, la société politique libanaise se trouve pratiquement dans l'ignorance du sort du pacte de 1943. Selon une opinion souvent réitérée, la guerre aurait aboli ce pacte. Souvent aussi, l'accord de Taif est évoqué sous la dénomination de pacte de Taif, sans que l'on explique ce qui adviendrait de l'autre pacte si cette appellation était prise au sérieux. Officiellement, l'accord de Taif est baptisé « document d'entente nationale ». Dans son texte, cependant, et partant dans le nouveau préambule de la Constitution qui le copie, il est fait mention d'un pacte de la vie en commun. Toute autorité contraire à ce dernier pacte est déclarée illégitime. Il n'empêche que ce qu'on veut dire ici par vie en commun demeure indéfini, de même que l'identité du pacte censé régir cette dernière. Serait-ce le fameux pacte de 1943 ou la non moins fameuse formule de distribution du pouvoir et de ses dépendances et prolongements ou encore autre chose? Aussi a-t-il été possible, dans le climat de la crise en cours, que, tablant sur la démission d'une poignée de ministres confessionnellement marqués, un front minoritaire de forces politiques déclare désormais illégitime le gouvernement en place. Identifier ainsi le pacte de la vie en commun, évoqué dans l'accord de Taif, signifierait que le dit pacte n'est autre que la formule distributive dont le même accord a préconisé l'abolition. Je parlerai dans ma troisième conférence des développements et des blocages que la formule communautaire a connus dans l'histoire du Liban contemporain. Mais auparavant, dans ma deuxième conférence, j'essaierai d'examiner l'idée que les Libanais se font de la notion d'indépendance nationale et partant cette conjonction qui rebondit dans tous les débats sur le système politique libanais et sur ses crises, cette conjonction des influences extérieures et des disponibilités intérieures. J'essaierai, dans la mesure de mon possible, de faire avancer un peu la réflexion sur ce problème qu'on pourrait qualifier d'obsessionnel. Ma dernière conférence, je la consacrerai à tirer les conclusions concernant l'avenir tel qu'il nous apparaît aujourd'hui du système politique libanais, empêtré depuis bientôt 4 ans dans cette crise qui semble sans issue, qui, à mon sens, et d'après mon analyse, j'essaierai de vous en livrer les raisons, me semble être effectivement fatale. La seule issue possible qui reste étant de faire subir à ce système une refonte profonde, une réforme tout à fait substantielle dans le sens de la déconfessionnalisation. Je vous remercie de votre attention.